de Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel.
Bonjour à tous, bienvenue, c'est rmc.fr, c'est 01net.com et c'est De Quoi je me mêle. Comme chaque vendredi, c'est parti pour une heure entière dédiée aux nouvelles technologies. Je suis ravi de vous retrouver, je vous souhaite un excellent week-end et merci d'être de plus en plus nombreux à nous retrouver à la fois pour la version audio sur rmc.fr de Quoi je me mêle et puis la version vidéo qui existe maintenant depuis de nombreuses semaines que vous pouvez retrouver sur 01net.com et 01net TV. Voilà, ce qui est bien avec la vidéo, c'est que lorsque vous avez envie de découvrir un produit que vous entendez sur la version audio, hop, vous allez sur 01net TV et là, comme par magie, ça s'affiche. Au menu de ce De Quoi je me mêle, tout à l'heure Pépé Garcia sera là, il nous parlera entre autres d'une nouvelle norme de la prise HDMI. Alors c'est un peu technique, mais malgré tout, vous savez que la HDMI c'est un peu la péritelle d'aujourd'hui qu'on a sur nos télés. Eh bien cette norme évolue, on en parlera, d'audio HD. Et puis on évoquera aussi la nouvelle série Daredevil qui a été annoncée par Netflix, qui va être lancée là. Pépé a eu la chance de voir les deux premiers épisodes, il nous en parlera tout à l'heure. Et puis un sujet passionnant aussi dans De Quoi je me mêle dans quelques minutes, juste après le club de la presse IT, on va évoquer sans doute l'objet connecté santé le plus impressionnant, c'est ce cœur artificiel Karma, qui est complètement français, qui bat dans le corps d'un individu qu'il a depuis plusieurs mois. C'est incroyable cette histoire, je recevrai le directeur général adjoint de la société Karma pour découvrir comment ce cœur fonctionne et puis essayer de comprendre aussi quel va être l'avenir de ces objets médicaux connectés. Ce sera tout à l'heure dans De Quoi je me mêle. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de Quoi je me mêle qui vous attend. Bienvenue.
De Quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.
Et pour débuter le club de la presse IT, Florence Centraud est à ma gauche. Bonjour, bonjour. Florence. Florence Centraud, donc rédactrice en chef adjointe chez Metro News, et puis Jean-Marie Portal, vous le savez, qui représente dignement le magazine 01net, que voilà, regardez, il est là dans les kiosques, c'est le nouveau numéro avec tout fait réparer au meilleur prix, et on évoquera tout à l'heure eh bien, cette possibilité de remonter dans le temps grâce au web, que ce soit l'histoire, que ce soit les médias, la vidéo, etc., une petite sélection de sites ou d'applis que Jean-Marie va nous conseiller. Mais pour débuter donc, Florence, une semaine un peu chargée pour vous, puisque depuis une semaine, vous testiez en secret, avec quatre vigiles autour de vous.
mais avec des manches longues systématiquement.
Mais c'est ça, oui. C'est pour ça qu'on ne comprenait pas pourquoi vous aviez une doudoune tout le temps. Mais maintenant, on peut le comprendre. Voilà.
La semaine dernière, j'avais un gilet, par exemple.
C'est vrai, vous l'aviez ici, alors qu'on ne le savait pas. Voilà. Mon Dieu, ressortez-moi les cassettes.
J'ai rien
montré. Et donc, Florence, teste depuis une semaine. En secret, l'Apple Watch. Alors, c'est un grand jour aujourd'hui, puisque en ce vendredi, l'Apple Watch est en précommande dans les Apple Store. On va en parler un petit peu plus longuement. Ça va être une grosse partie de ce club de la presse IT. Jean-Marie pourra nous donner son avis aussi, réagir. Donc, c'est exceptionnel, Florence, parce que vous avez été très peu journaliste français à l'avoir. Il y a notre camarade Didier Sens du Figaro.
On n'était que deux, ouais.
Et donc, vous, de Metro News, une semaine avec l'Apple Watch au poignet.
Exactement.
Verdict, Florence.
Elle est très bien. On va pas.
Elle est très bien. Merci beaucoup.
On va pas chipoter là-dessus. Non, parce qu'elle est effectivement l'ergonomie. Moi, je la trouve. La prise en main est vraiment. Moi, je trouve assez rapide.
Ouais.
C'est en une demi-journée. Je savais à peu près où étaient à peu près toutes les fonctions, etc.
D'accord.
On se perd pas trop. C'est assez rapide.
En ergonomie, en usage, etc.
En usage, en prise en main, etc.
L'idée, alors, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette montre concrètement ?
On peut faire quand même pas mal de choses.
Ouais.
Alors, il n'y a pas encore énormément d'applications, mais on peut...
On peut lire l'heure ?
On peut lire l'heure, fait.
Alors, pour lire l'heure, c'est très simple. En fait, la montre est éteinte. Il suffit de tourner le poignet. En fait.
Voilà, et ça s'affiche. Alors là, on était.
On est sur la version vidéo, les amis. Évidemment, regardez ce que ça donne si ça vous intéresse.
Je vais venir immédiatement, mais j'ai mis des démos sur le site.
Ça hop là,
c'est réactif, il n'y a pas de lag.
D'accord.
Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a beaucoup de fonctions du téléphone qui sont déportées, en fait. Toutes les notifications. Alors après, on peut choisir d'avoir telle ou telle notification. Il y a un long menu dans une appli dédiée à l'Apple Watch. Si on a beaucoup d'applications, il y a un long menu. On peut activer, désactiver à loisir.
D'accord.
On peut passer des appels, on peut en recevoir.
D'accord.
Je l'ai fait, c'est assez fun. Bon, il ne faut pas être dans la rue ou il ne faut pas bouger non plus trop son poignet. Il faut essayer de le garder à proximité de la main. Mais non, il n'y a pas besoin de le coller à la bouche non plus, hein, mais ça marche plutôt pas mal. On sent qu'on est en haut-parleur, en mode haut-parleur, mais ça fonctionne.
Et puis ça fait tellement James Bond et Cosmos 1999. Moi j'adore ça, parler à sa montre, mais c'est un rêve d'enfant.
Exactement.
Enfin maintenant, dans James Bond, ils sont passés aux oreilles intégrées.
Non, mais les vieux James Bond, genre, commencez pas à me.
C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que c'est un produit vintage, donc.
Vous avez en plus, il y a un joli bracelet là, sur celle-là.
Oui, c'est aimanté, donc ça se. C'est vraiment au millimètre près du coup sur le poignet. Et si en cours de journée vous avez un peu chaud, le poignet gonfle, vous pouvez
et ça explose, donc ça c'est pas terrible.
Un peu rebouger. Un peu
c'est rigolo poignet, ce nuage d'applications qu'on voit. Alors, précis, vous l'avez peut-être vu si vous étiez sur. Enfin, si vous nous écoutez en audio et que vous avez regardé les petites vidéos, ce petit nuage là d'appli. Qui se veut être un peu le sommaire de la montre, quoi. C'est ça, enfin en tout cas le dashboard.
Bah, on accède à toutes les fonctions. Il y a quelques applis créées par Apple qui sont plutôt pas mal. Il y a l'appli activité qui nous suit au cours de journée, c'est-à-dire qui nous dit voilà, vous avez fait un petit peu de sport là, allez marcher un petit peu. Toutes les heures, il peut vous rappeler de vous lever une fois par heure si vraiment vous êtes.
Et tout ça, c'est paramétrable.
Tout ça, c'est paramétrable, évidemment.
D'accord.
On peut aller faire du vélo, on peut aller faire... Voilà. Ensuite, il y a aussi un bouton en dessous de la molette qui est un bouton pour accéder à ses amis, ses proches. Mmh. Et on peut rapidement... Alors, envoyer un SMS, c'est vraiment hyper rapide avec Siri, dans la mesure où on parle correctement et où il n'y a pas trop de bruit non plus. Mais je l'ai fait dans la rue, ça marche très bien. On peut aussi...
Mais là, il faut être connecté toujours. Hein. Il faut avoir du réseau.
Il faut avoir soit son téléphone à portée de Bluetooth, soit si on est sur un réseau Wi-Fi perso, c'est-à-dire le réseau Wi-Fi de sa maison, ça va fonctionner.
D'accord.
Et voilà, on peut jouer, envoyer des messages, envoyer ses battements de cœur à son chéri. On peut dicter, rappelle-moi d'acheter du pain, il va le rentrer immédiatement. On n'a pas besoin de sortir son téléphone dans la rue pour y penser, quoi. Donc ça, c'est des petites, voilà, c'est plein de petites fonctions qui permettent d'éviter de sortir sans arrêt son téléphone. Et en ça, c'est super bien.
On peut pas regarder vidéo. On peut sur la montre.
Non, pas à ma connaissance. Je l'ai pas fait en tout cas.
Des photos. On peut des regarder photos, par exemple oui. Les photos qu'on a stockées sur son iPhone.
Il y a photo en fait sur le.
Mais tout simplement, voilà. Et donc là, on se retrouve avec votre nuage de photos, quoi.
Voilà,
c'est ça.
Et ensuite, on peut zoomer dans les photos et se balader. Donc, d'accord. Ça, c'est assez joli. C'est la Corse.
Ok, c'est pas mal.
C'est chouette.
Je suis d'accord, c'est plutôt pas mal. On va pas évidemment énumérer toutes les fonctionnalités de cette montre qui sont très nombreuses. On le voit. Le sentiment global, parce que
le
effectivement,
global,
c'est pas la première montre connectée que vous testez.
Non,
il y en a déjà beaucoup.
On en a eu quelques-unes en main au bureau, des Android Wear notamment.
Malgré tout, quand on lit les tests américains, on se rend compte que c'est sans doute, et la plupart des journalistes américains le disent, la montre connectée la plus aboutie, avec le plus de fonctionnalités. Mais c'est pas forcément l'objet ultime qui fait craquer tout le monde. On voit quand même qu'il y a pas mal de sons de cloche un peu négatifs.
Oui, alors on peut tomber amoureux de cette montre et se dire voilà, c'est génial parce qu'effectivement j'ai pu sortir mon téléphone de mon sac ou du fond de ma poche ou ce que vous voulez.
Oui.
Et quand on a un écran de plus en plus grand, c'est quand même bien. Par exemple, un iPhone 6 Plus, c'est un peu. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu embêtant à la longue d'avoir toujours à aller le chercher parce qu'il est grand et qu'il prend de la place.
C'est-à-dire que plus le téléphone est grand, plus la montre a un sens.
Exactement.
En fait.
Donc voilà, en ça, c'est plutôt bien. Après, pour moi, aujourd'hui, après une semaine de test, elle n'est pas indispensable encore au point où j'irai payer aussi cher pour l'avoir.
C'est-à-dire que concrètement aujourd'hui, vous ne seriez pas prête à mettre 350, enfin c'est 3,99 hein, je crois le premier prix.
C'est voilà, on va dire 400 euros.
400 euros.
400 euros, non franchement, au bout d'une semaine. Alors après, c'est ce que je dis dans mon test, c'est que voilà, je vais voir si ça se trouve dans un mois, j'aurai un autre discours. Parce qu'en vous disant, voilà, j'ai pris des habitudes.
Et puis peut-être qu'il y a de nouvelles applications, de nouveaux services qui vont arriver.
Effectivement, là j'avais une dizaine d'applications plus de celles d'Apple. Il y en aura 1000 au lancement le 24 avril. Ça va peut-être tout changer parce qu'effectivement, il y aura peut-être beaucoup plus de choses qu'on pourra faire. Aujourd'hui, je peux déjà voir mon fil Twitter, c'est bien, mais il y a plein de choses d'interaction que je ne peux pas faire. Voilà. Excusez-moi. Aujourd'hui, mettre 400 euros, en gros, c'est acheter un deuxième téléphone.
Pour un accessoire de téléphone.
C'est un accessoire
bien sûr,
d'un téléphone qu'on a déjà acheté et qui vaut cher, c'est l'iPhone.
Ouais.
pour moi, c'est un petit peu cher. Et d'autant plus que, voilà, on commence à 400 euros, mais ce modèle-là, par exemple, il est à 750.
D'accord.
Dès qu'on passe...
Alors, pourquoi il coûte plus cher, celui-ci ?
Parce que ça, c'est le boîtier. Alors, c'est un boîtier 38 mm, mais il est en acier. C'est pas la version sport, c'est la version classique, milieu de gamme, on va dire. Et ensuite, on rajoute le prix du bracelet en maille milanaise, et donc le montant en total est 750.
Ouais. Donc 750, c'est le voilà. double du prix de la montre d'entrée de gamme, quoi, pratiquement.
Hein,
donc,
le prix d'un iPhone.
C'est le prix d'un iPhone.
C'est ce que je disais, c'est que c'est
Jean-Marie,
le prix d'un iPhone.
Quel est votre sentiment concernant ce lancement alors, je le dis à chaque fois, moi, je dirais de tous les dangers d'Apple, parce que c'est pas un pari que Apple va forcément gagner comme ça d'un claquement de doigts.
Bah, c'est pas gagné, ouais.
Je suis assez dubitatif, moi, par rapport à ce produit qui, de prime abord comme ça, maintenant il faut voir à l'usage, il faut voir effectivement les applis qui vont sortir et comment Apple va réussir ou pas à rendre cet objet plus ou moins indispensable pour les gens qui apprécient en tout cas la high-tech. Mais pour le moment, je trouve que ça ressemble plus à un gadget très cher. Parce que en dehors d'indiquer l'heure et de pouvoir lire ses SMS, je ne sais pas qui se voit répondre de vive voix à des appels dans le métro ou dans le bus.
Non, mais
qui se voit de vive voix répondre à des SMS de la même façon et dicter à Siri des choses. Je vois pas. Et puis pour le côté sportif, on a aujourd'hui des bracelets sportifs beaucoup moins chers et très performants. Et
bon,
enfin, si on veut une belle montre, je pense que si c'est l'horlogerie qui vous intéresse, dans ce cas-là, vous n'allez pas vous tourner vers ce produit-là, parce que dans le monde de l'horlogerie, vous allez trouver véritablement de vrais bijoux bien plus jolis que ce boîtier un peu métallique, rectangulaire. Voilà, je suis un peu critique. Maintenant, je vous dis, c'est comme Florence, je dis qu'il faut attendre aussi de voir les applis qui vont sortir, les usages, et se faire un avis définitif dans quelques semaines ou dans quelques mois.
D'accord.
Mais c'est très très cher payé pour le moment, je trouve, le gadget.
Bon, on verra bien, hein. Mais en tout cas, on peut dire beaucoup de choses concernant cette montre, mais en tout cas, il faut saluer le courage d'Apple qui lance un nouveau marché avec un nouveau produit, même si effectivement 400 euros la montre connectée, ça paraît quand même assez stratosphérique.
Hein. Oui.
Bon, on verra bien. Dernière chose, donc à partir d'aujourd'hui, elle est en précommande.
Tout à fait.
Donc, alors, ça veut dire qu'on peut aller dans un Apple Store, la tester.
Et alors, il faut avoir pris rendez-vous.
Ah, il faut prendre rendez-vous. C'est-à-dire, oui. si je passe devant dans
aujourd'hui,
un...
si vous y passez, vous ne pourrez, a priori, sauf s'il y a très peu de monde,
oui,
mais ça m'étonnerait quand même, vous ne pourrez pas la tester. Il faut prendre rendez-vous via le site Apple. Vous pouvez également faire une précommande, carrément l'acheter, enfin la précommander en ligne sans jamais la voir. Mais alors, vu le prix, moi, j'irai quand même faire un petit tour. Après, c'est chacun voit, ou s'il peut aussi, il faut avoir un Apple Store à proximité.
Ne serait-ce que pour choisir entre les deux tailles d'écran aussi.
Qui propose la montre. Oui, voilà, parce que c'est... Alors, les deux tailles d'écran, il y a donc 38 et 42 mm pour le boîtier. C'est pas forcément féminin ou masculin. Ça peut, en fonction des gens et du façon dont vous allez la voir au poignet, ça, c'est...
D'accord.
Pour moi, c'était pas décidé dès le départ. J'ai finalement opté pour la version plus petite, mais la deuxième était bien aussi. Hein.
D'accord. Est-ce qu'on a évoqué l'autonomie ?
Non. Et ce que je voulais parler,
c'est peut-être le sujet, l'un des sujets les plus importants concernant cette montre, parce que véritablement. Voilà, c'est l'un des.
Grande crainte.
C'est un peu l'enclume de cette montre, c'est le fait de se dire que bah, régulièrement il va falloir la recharger. Apple promet 18 heures d'utilisation
intensive. Tout à fait.
Alors, intensive.
Voilà, pas de miracle, il faut la recharger tous les jours. Hein.
Donc vous l'avez constaté, au bout de 12 heures d'utilisation, on va dire assez.
Plus.
Un peu plus.
Plus.
Enfin, une grosse journée d'utilisation.
On est sur du 7h-23h, on va dire.
Voilà, 7h-23h, donc ça fait combien ça ? Ça fait 16h.
Ouais, à peu près. Mmh. Et j'étais pas au bout. Il y a dû avoir un ou deux jours où effectivement elle est tombée en rade un peu. Enfin, elle n'avait plus de batterie un peu avant. Parce qu'il faut dire aussi que je l'utilise de manière intensive pour la tester. Mais sinon, ça, honnêtement, ça tient la journée.
D'accord.
Ça tient la journée avec une utilisation. Voilà, je me fais guider à vélo pour aller d'un point, d'un rendez-vous à l'autre.
Sans se limiter.
Même un petit peu intensive,
on va dire.
Un peu intensive.
Voilà.
J'écoute de la musique. Je je passe des appels, des choses comme ça, ça et ça passe.
Parce que c'est bien connu, à partir de 23h, on n'a plus besoin de sa montre.
Donc, non, mais à partir de 23h, elle dormait. C'est ça le truc.
Bah, oui, enfin, on est chez soi. Enfin, c'est...
Bah, on n'est pas forcément chez soi. Non, moi, je trouve que 23h, c'est quand même un petit peu limite. Quoi. C'est-à-dire que ça ne tient pas une journée complète. Ce qu'il faudrait, c'est quand même que ça tienne un peu plus d'une journée. Je ne sais pas, après une journée de travail, vous sortez le soir, vous allez au resto, à partir de 23h, c'est terminé. C'est quand même un petit peu... Et le temps de recharge...
Je n'ai pas dit que c'était terminé. J'ai dit que je la reposais en général aux alentours de 23h. Il restait encore 5 ou 10... Quoi qu'il arrive, on peut toujours basculer sur le mode réserve qui permet, là où on n'a plus accès qu'à l'heure, en gros, et voilà, qui permet de le garder. Oui, ça devient une montre de base, quoi.
Voilà, qui devient au moins, on a l'heure. Une montre qui donne l'heure.
Et le temps de recharge ?
Le temps de recharge, c'est... on est sur un petit peu moins de 3 heures pour la recharger complètement.
D'accord.
C'est-à-dire que ça met plus longtemps à se recharger qu'un iPhone. Parce que les iPhones ont quand même
j'ai vu
cet avantage de se recharger très vite.
2 heures et demie, quand elle est vraiment vide, fait. Hein, c'est ça.
2 heures et demie.
Voilà ce qu'on pouvait dire concernant, en tout cas, ce que Florence pouvait dire concernant cette Apple Watch, hein, que Florence a eu la chance de tester en avant-première. Bien sûr, on y reviendra, à la fois sur Metro News, bien sûr, vous allez en parler, mais sur zeronet.com, avec très bientôt donc le test complet. Et puis, on va s'amuser à la comparer avec toutes les autres montres. Et puis, surtout aussi... voir si elle correspond à diverses personnalités, parce que typiquement ce genre de montre, si on n'est pas geek, ça peut peut-être pas servir à grand chose, mais si on est geek, ça peut peut-être devenir très vite un objet indispensable. Donc tout dépend un peu de sa personnalité, de son âge, pas forcément de son sexe, parce que bon, après on peut être geek ou geekette, mais je pense que ça peut être intéressant aussi de voir un peu les différentes personnalités, comment ils s'accaparent ce nouvel objet technologique.
Il y a les gens qui aiment bien les bracelets connectés, il y en a d'autres qui vont pas supporter, parce que pour eux c'est un stress supplémentaire de devoir se dire j'ai pas fait le nombre de pas
ouais,
de
mais ça va au-delà du bracelet connecté.
C'est des pratiques. Est-ce que j'ai quelque chose de technologique à ma main ou pas, à mon poignet? Voilà, c'est une vraie question.
Florence, pour terminer, on va maintenant s'intéresser à une innovation qui peut-être rendra service à l'Apple Watch, hein, qui sait. C'est des batteries complètement pliables.
Pliables et qui se rechargent en 1 minute.
Ça, c'est chouette.
Tout simplement.
Waouh. Alors imaginez, votre Apple Watch, au lieu de passer 3 heures sur le chargeur...
Là, on serait sur 30 secondes, là, oui.
Oui, ça serait cool quand même, hein.
Ça serait pas mal, oui. Alors, c'est pas encore pour tout de suite.
Ah, ben voilà, tout de suite, il faut qu'il y ait un bémol, ça, Florence. Voilà. Vous nous faites rêver avec un truc et puis paf.
Et puis voilà. Oh. C'est des chercheurs de l'université de Stanford qui ont découvert ça un peu par hasard, en fait. Parce qu'ils cherchaient à mettre au point une batterie à base d'aluminium, qui est un matériau assez léger, assez performant, qui transmet bien la chaleur. Voilà, il a plein d'intérêts. Et en fait, ils l'ont associé à du graphite, un peu comme ça, par hasard.
Oui.
Et ils sont aperçus qu'en mixant les deux, eh bien, ça permettait d'avoir une batterie beaucoup plus rapide, dans le sens de la charge, et qui pouvait conserver une certaine flexibilité, parce qu'ils sont parvenus à mettre au point un alliage de matériaux.
Alors le problème, je crois qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ils n'arrivent pas à avoir la puissance d'une batterie lithium-ion au niveau voltage.
Voilà, exactement.
C'est ça le problème. Hein.
La puissance est divisée par deux, et l'encombrement, et donc il faudrait un encombrement double pour avoir la même chose. Oui. C'est-à-dire que bon, l'Apple Watch ou votre téléphone, vous lui rajoutez quelques millimètres voire un centimètre d'épaisseur pour avoir...
Mais on en est qu'au début, donc on peut imaginer que... rappelez-vous,
oui,
au début,
c'est
les
le
batteries,
début.
Ça
veut dire que c'est
un truc énorme et gros. Là,
on n'est pas sur la commercialisation dans 2 ans, mais ça va arriver. Voilà, ils sont arrivés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que contrairement aux batteries lithium, on peut la percer. Ils l'ont percée pour voir. Elle n'implose pas. Elle ne prend pas feu.
Voilà.
Elle va fonctionner encore quelques instants et puis elle va tomber en rade. C'est normal.
D'accord.
Mais voilà, elle va pas prendre feu. Elle va pas surchauffer comme peuvent le faire certaines batteries aujourd'hui.
Parfait. Voilà pour peut-être ce futur de la batterie qui arrivera dans quelques années. Voilà. Merci Florence.
Merci François.
Si vous voulez trouver évidemment le test de l'Apple Watch et toutes ses actus high-tech, c'est sur Metro News, la version web, la version papier et puis les versions mobiles aussi.
Tout à fait.
Merci Florence. Vous pouvez laisser votre poignet en partant
ou
pas ?
Oui, bien sûr, ne vous inquiétez pas.
Il y a Jérôme, notre réalisateur marseillais, vous savez qu'il est un peu... Voilà, il a porté sa petite machette. Tout va bien.
Je vais y aller par contre. Excusez-moi.
Non, vous ne pouvez pas y aller. Jean-Marie Portal.
François Sorel.
01net mag, le numéro 818 est dans les kiosques, avec un comparo très intéressant entre le Samsung Galaxy S6 et l'iPhone 6.
Oui.
Parce que évidemment, c'est le duel au sommet,
le
choc des
ennemis.
Titans. Les frères ennemis, ouais. Quel est le meilleur? Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le 01net mag.
Page 42.
Page 42. Mais là, on va s'intéresser en fait aux nostalgiques que nous sommes. Grâce au web, on peut remonter le temps, Jean-Marie.
Oui, qui n'a jamais rêvé de remonter le temps, c'est un thème assez récurrent, que ce soit de la littérature ou même le nombre de scientifiques qui en ont rêvé. Même Einstein s'est penché sur la question avec sa théorie de la relativité, mais qui, pour le moment, ne nous laisse entrevoir des voyages dans le temps que vers le futur, hein, potentiellement, mais dans le passé, ça c'est une autre histoire.
Oui. Et déjà, dans le futur, c'est pas encore complètement gagné. Quoi.
Non, c'est juste éventuellement,
voilà,
peut-être
ça.
Un jour, ce serait possible. Sous couvert de... mais néanmoins, en fait, il existe déjà une machine à remonter le temps assez extraordinaire qui s'appelle Internet.
Et oui.
Et il existe des sites et des applis qui vous permettent vraiment de remonter le temps. Et entre autres, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez le site Paris 3D Saga. Paris 3D Saga, qui est un projet donc, qui a été mené par Dassault Systèmes, une entreprise française qui a l'habitude généralement d'intervenir pour modéliser en trois dimensions des avions, des objets de la vie courante. Donc ils ont un puissant logiciel de création 3D. Qu'ils ont eu la bonne idée de détourner de son usage initial pour recréer le Paris d'autrefois. Donc, en allant sur le site Paris 3D Saga, mais il existe aussi une application pour iPad, vous pouvez remonter le temps pour voir, par exemple, à quoi ressemblait la Tour Eiffel un petit peu avant l'exposition universelle de 1889.
Donc sa construction, c'est
et
ça
voir donc sa construction,
oui, parce que depuis mais aussi 1889, elle n'a pas beaucoup bougé.
Elle n'a pas beaucoup,
d'ailleurs.
Elle n'a pas beaucoup bougé, mais il y a aussi tous les bâtiments qu'on avait construits autour et qui eux ont disparu
oui,
pour
d'accord.
le coup.
Donc on va voir l'environnement de la Tour Eiffel à l'époque en fait. C'est
vous
ça
allez,
qui sera amusant.
Vous allez voir la Tour Eiffel, vous allez voir l'environnement et ce qui est surtout extraordinaire, c'est que vous pouvez vous balader un petit peu comme dans un jeu vidéo. Donc soit vous vous laissez guider et vous avez des commentaires qui vous expliquent le contexte de l'époque, le contexte historique, l'histoire de la Tour Eiffel, mais il n'y a pas que la Tour Eiffel, vous pouvez aller voir la Bastille, la prison de la Bastille telle qu'elle était à l'époque, vous pouvez aller voir la Sainte-Chapelle, vous pouvez aller voir le Louvre à différentes époques de sa vie, et vous pouvez donc soit vous laisser guider et apprendre au passage un petit peu l'histoire de ces monuments historiques, soit vous balader carrément comme dans un jeu vidéo, et la prouesse technologique c'est que au-delà de l'édifice, vraiment l'environnement a été recréé. Pour chaque bâtiment, c'est 6 à 8 mois de travail. C'est pas seulement des ingénieurs qui ont travaillé, c'est aussi des historiens, c'est des architectes. Donc Paris, Dassault Systèmes, c'est vraiment entouré de spécialistes pour recréer ces bâtiments.
Pas mal. Bon, alors ça...
Alors ça, c'est le gros morceau, on va dire.
Mais c'est Paris 3D Saga. Hein,
c'est Paris 3D.
Si vous voulez vous amuser. Il ne faut pas une machine monstrueusement puissante pour la 3D, là, tout
non,
ça, ça
alors, non, c'est ça qui est intéressant. Ça fonctionne. Alors, pour le moment, ça ne fonctionne que sur PC. Dans une fenêtre de navigateur, il faut juste télécharger un petit plugin.
Un petit plugin, d'accord.
Dassault est en train de travailler, justement, sur l'évolution de Paris 3D Saga pour ne plus avoir besoin de plugin et que ça fonctionne avec les nouvelles techno, on va dire, du web et dans n'importe quel navigateur sur PC comme sur Mac, mais là juste un petit plugin et ça fonctionne.
Ça marche avec quel navigateur sur PC ?
N'importe quel navigateur. Non, je crois que ça doit être Chrome. Je crois que c'est n'importe quel navigateur, d'accord. Mais vous lancez le plugin et c'est bon. Et sinon, vous avez une appli sur iPad, un petit peu moins. C'est présenté différemment, on va dire, sur
d'accord.
iPad. C'est sympa aussi.
Ok, donc ça c'est pour l'histoire, mais il n'y a pas que ça.
Voilà,
c'est
pour l'histoire et il y en a d'autres,
ouais.
mais à découvrir donc dans le magazine.
Pour remonter maintenant le temps dans les médias et les loisirs.
Bah, dans les médias, oui, tout à fait. Si vous voulez par exemple revoir la victoire de Yannick Noah en 1983, qu'est-ce qu'il a gagné en 1983
Roland Garros.
Je vous propose d'aller sur le site de l'INA. Et l'INA, l'Institut National Audiovisuel,
ouais.
Qui archive plus de 100 ans de programmes télé, de publicité, d'émissions radiophoniques. Mmh. Et vous pouvez ainsi fouiller, on va dire, les archives de l'histoire de la télé et retrouver des vieilles émissions, des vieilles interviews, des vieilles pubs. La victoire de Yannick Noah, par exemple, annoncée durant les infos, présentée par Christine Ockrent à l'époque. C'est vraiment très amusant de pouvoir remonter ainsi le temps. Vous pouvez, je ne sais pas si vous vous souvenez de Thierry Lafronde, cette bonne vieille série. Ben là, pour le coup, vous pouvez regarder tous les épisodes de Thierry Lafronde gratuitement, comme ça, sur votre ordinateur.
Et je tiens à saluer quand même le travail de Lina, qui fait un boulot incroyable de numérisation de tous ces documents, qui évidemment n'étaient pas numériques à l'époque. Hein. C'était ou de la bonne vieille vidéo, ou alors de la pellicule. Et c'est un travail titanesque. Alors, il n'y a pas tout, hein, mais petit à petit, ils sont en train de numériser eh bien, tout notre patrimoine audiovisuel. C'est
tout
génial.
À fait. Ouais. Super. Alors, c'est pas de la super qualité, parce bah qu'à l'époque, il faut bien se mettre...
Oui. Voilà, ouais, c'était pas pensé à filmer en HD.
On n'est pas en voilà. HD, c'est ballot, là.
Vous
ils
attendez...
auraient pu filmer en
c'est
HD, quand même.
Idiot, mais
donc,
bon,
voilà, donc sur grand écran...
Moi, Guilu, je voulais le voir en HD.
Ouais. Donc, sur grand écran, c'est pas terrible, mais quand même, quoi. C'est ouais. Super...
D'accord.
Super vintage.
Okay.
Autre grande institution aussi qui fait ce même travail d'archivage, que je tiens à citer au passage, c'est la BNF, où là, vous allez pouvoir retrouver des documents écrits, mais aussi des documents sonores, des vieux mmh. disques. La BNF fait aussi un travail extraordinaire là-dessus, accessible aussi en ligne via son site Gallica, qui est en train d'ailleurs d'évoluer. Il y a un nouveau site qui vient de sortir, qui est vraiment extrêmement bien fait.
Voilà, et puis on termine peut-être sur le Zoom, sur votre année de naissance.
Oui, votre année de naissance. Alors ça, c'est un site donc qui, pareil, archive année par année, thématique par thématique, tout ce qui s'est passé. Mm-hmm. Donc c'est Live to Times, hein, qui est un site français.
Vous tapez, ça sent, hein, d'ailleurs.
Voilà, vous tapez une année et puis vous pouvez comme ça voir les petits et les grands moments de cette année-là. En 1970, Jimi Hendrix se produisait au Fillmore Est avec son nouveau groupe, le français Louis Pouzin imaginait le premier réseau à commutation de paquets, l'ancêtre ah oui. d'Internet. Voilà. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que vous avez des petites histoires en plus
mais
des grandes histoires.
Qui tombent l'année ouais. que vous avez choisi.
Une petite dernière sur ouais. Internet, quand même, pour les nostalgiques. On parlait donc de l'Apple Watch tout à l'heure. Ceux qui ont envie de se remémorer à quoi ressemblait un bon vieux macOS System 6 ou System 7, c'est pareil. Un site pour ça, vous allez dessus. Ils ont émulé.
On peut interagir sur les systèmes de l'époque.
C'est un développeur qui sur son blog s'est amusé donc à émuler des bons vieux systèmes. Il y a du Windows 3.1 et il y a du macOS.
Il y a du 3.1.
Système 6 et système 7. Alors vous n'allez pas faire grand chose avec, mais vous pouvez démarrer la machine et puis vous balader sur dans l'interface. Non, parce que sur nos machines actuelles, même dans une machine virtuelle,
ils ont pas créé lenteur.
Non,
ils ont pas été jusqu'au bout.
Non, mais vous allez même pouvoir jouer à certains petits jeux sur PC, Monkey Island, je ne sais pas si vous vous souvenez, Wolfenstein 3D.
Oula, ouais, là il y a du lourd.
Voilà, donc parfait. Pour les nostalgiques de la high-tech.
Merci beaucoup, vous pouvez retrouver tout ça dans le Zéro Net Magazine.
Et bien d'autres.
De cette semaine, évidemment, beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup Jean-Marie Portal.
Merci François.
Florence, merci aussi.
Merci François.
De quoi je me mêle la suite dans un instant. On va revenir sur cette incroyable aventure de cet objet médical sans doute le plus impressionnant. C'est ce cœur connecté de la société Karma. Je vais recevoir dans un instant son directeur général adjoint. Et puis, juste après, ce sera Pépé Garcia pour sa petite sélection de produits high-tech. Merci de nous suivre. De quoi je me mêle donc en audio d'un trait, vous le savez, chaque semaine, le vendredi sur rmc.fr et en vidéo, découpé en plusieurs modules pour que vous ayez le loisir de regarder ce qui vous intéresse sur zeronet.com et zeronet.tv. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et zeronet.tv. François Sorel.
Et oui, c'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Merci de nous suivre chaque vendredi. Tout à l'heure, on retrouvera Pépé Garcia, mais dans l'immédiat, je voulais vous parler avec mon invité d'un miracle qui permet aujourd'hui à un homme qui était très malade de pouvoir vivre à peu près normalement. d'après les derniers témoignages qu'il a pu donner, eh bien, il fait même du vélo, c'est incroyable. Et cette personne a quand même une particularité, c'est qu'il a un cœur artificiel. Vous en avez sans doute entendu parler, ça fait la une de tous les médias il y a quelques temps de cela. On va revenir sur ce cœur artificiel Carmat avec mon invité parce que forcément, le prisme des nouvelles technologies nous passionne. On parle énormément d'objets connectés sur Zeronet TV, dans De quoi je me mail. Et forcément, celui-ci, c'est celui qui nous fait rêver et qui est hyper connecté, vous allez voir. Patrick Coulombier, mon invité. Bonjour Patrick Coulombier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général adjoint de Carmat, donc une société qui est spécialisée donc dans la médecine et dans ces objets connectés médicaux. Racontez-nous déjà ce cœur connecté. Il remplace un vrai cœur?
Absolument. L'objectif, c'est bien de remplacer le cœur d'un patient qui est en bout d'insuffisance cardiaque, donc qui n'a plus d'autre solution que la transplantation cardiaque. Malheureusement, on a un déficit de greffons chronique dans tous les pays.
100 000 personnes dans le monde
pourraient bénéficier,
seraient susceptibles de pouvoir bénéficier de ce cœur. Ah, en fait,
absolument. Hein. Et aujourd'hui, donc, on a un déficit de greffons.
Parce qu'en gros, c'est ou j'ai ce cœur-là, ou alors je me fais greffer un cœur nouveau. Mais évidemment, il faut attendre un éventuel donneur, etc. C'est un cauchemar, évidemment, pour les malades et pour les familles, parce qu'il se peut qu'on n'arrive jamais à trouver le bon cœur.
Absolument. Il faut savoir que sur la liste d'attente, il y a de plus en plus de personnes, et ces listes d'attente augmentent, le temps d'attente augmente dans tous les pays occidentaux.
D'accord. Quand je suis en insuffisance cardiaque terminale, soit il me faut un cœur humain, greffé, soit je suis branché sur une machine. Et là, je suis alité, mais c'est une machine de secours, en quelque sorte, qui va me permettre de vivre combien de temps ?
C'est une machine qui va vous permettre de vivre, ça dépend de votre état.
Ouais.
Donc, ça va permettre de vivre pendant 6 mois, peut-être 3 ans. Certaines machines permettent de vivre pendant 3 ans.
Donc, c'est une énorme machine qui va simuler le cœur, en fait ?
Alors, en fait, non. Aujourd'hui, ce n'est pas des cœurs, réellement. C'est-à-dire, ce qu'on apporte aux patients pour attendre une transplantation, c'est une assistance ventriculaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient en chinte sur le cœur, en aide au cœur pour pomper. Mais ce n'est pas le remplacement d'un cœur complet.
D'accord.
Donc, c'est une machine temporelle qui permet, effectivement, d'attendre une transplantation.
Voilà, d'attendre une éventuelle issue positive.
Mais malheureusement, comme il y a un manque chronique de greffons, l'attente peut être très très longue ou même sans issue.
Et voilà. Donc, depuis des années, vous travaillez sur ce cœur artificiel, Carmat, avec évidemment une grosse médiatisation l'année dernière avec la transplantation du premier cœur artificiel. C'était il y a un peu plus d'un an, je crois.
Oui, c'était en décembre 2013.
Voilà. D'ailleurs, ça a été fait dans le plus grand secret, parce que, bien sûr, on peut imaginer, évidemment, à la fois pour la vie privée du patient, mais aussi pour des raisons simplement médicales et de secret médical.
Bien sûr, c'est très important.
Cette première personne a survécu combien de temps avec ce cœur ?
74 jours.
74 jours. Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Après, la personne est décédée. Après, nous avons...
À cause du cœur ?
Alors, c'est des raisons, si vous voulez, qui sont multiples. C'est-à-dire que les conditions du patient étaient très difficiles, donnant ainsi du stress, des conditions environnementales au cœur qui étaient également très difficile, et on est arrivé à une prothèse qui s'est mise, si vous voulez, dans un mode secours, et il a été choisi d'arrêter cette prothèse.
Mais c'était parce que l'état médical était désespéré, en quelque sorte. En revanche, donc, après, il y a eu un deuxième essai. Une deuxième personne a été transplantée, c'était à la rentrée dernière.
Le 5 août 2014.
Voilà, donc même avant. Et depuis, cette personne se porte comme un charme.
Absolument. C'est une personne donc, qui vit depuis 8 mois avec ce cœur artificiel, qui vit très bien, qui est à son domicile depuis le début janvier, je crois le 2 janvier exactement, et qui revient à la vie normale. Elle le dit... Cette personne s'exprime elle-même là-dessus. Elle fait du vélo, elle fait du jardinage. Elle revient à ce qu'elle pouvait faire 10 ans avant.
C'est incroyable. Voyez, et tout ça avec une machine qui est dans son thorax.
Oui.
Comment fabrique-t-on cette machine ? Parce que ce n'est pas le premier essai du cœur artificiel. Il y en a eu d'autres.
Non, il y a eu...
Ces essais se sont soldés par des échecs. Qu'est-ce qui a fait que vous avez trouvé... sous réserve que, évidemment, tout ça, on arrive à se généraliser. Hein, pour l'instant, on est toujours en phase d'expérimentation. Vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à faire marcher cette machine plusieurs mois dans le corps d'un individu?
En fait, si vous voulez, on est parti du constat que les projets de cœur artificiel qui avaient déjà été réalisés s'étaient tous heurtés au même problème qui était l'hémocompatibilité et la création de cailloux.
D'accord.
Et tout a été fait dans cette prothèse pour éviter justement que le sang soit maltraité, si vous voulez. Donc,
Avec des nouveaux matériaux, c'est ça ?
Avec des nouveaux matériaux, des matériaux biologiques.
Qui font croire au fait au sang que c'est un vrai organe, c'est ça ?
Exactement. Pour schématiser, tout à fait. Le sang voit, si vous voulez, une contraction musculaire. C'est-à-dire qu'il voit il est leurré, il voit un pseudo-cœur avec une vraie contraction musculaire.
Donc pas de caillot qui se crée.
Et pas de caillot. Donc on a utilisé des matériaux biologiques, comme une peau, si vous voulez, qui va donc pousser le sang à l'extérieur du cœur, comme le fait la contraction cardiaque, notre cœur naturel.
Alors cet individu donc a été opéré, on lui a installé ce cœur. Aujourd'hui, il est autonome.
Oui.
Mais comment marche ce cœur en fait ? Parce que j'imagine c'est que forcément il y a de l'énergie, ça doit consommer plus qu'un smartphone, ce truc-là quand même. Comment ça se passe ?
Alors en fait, le cœur c'est d'abord une pompe. Cette pompe, elle est mise en œuvre à travers un liquide hydraulique, c'est-à-dire que on ne va pas pousser le sang directement avec une micropompe qui endommagerait le sang, on pousse au contraire des membranes qui simulent le muscle cardiaque.
D'accord, donc encore une fois, on simule véritablement au plus près le vrai fonctionnement d'un cœur.
Exactement, ce qui permet, si vous voulez, de mettre les pompes qui mettent en mouvement, puisqu'il faut créer du mouvement, à l'extérieur de ces membranes, et donc on pousse les membranes qui poussent le sang.
D'accord.
Donc, en fait, vu du sang, comme vous le disiez tout à l'heure, le sang a l'impression d'avoir un vrai cœur. Il a effectivement les quatre valves, les valves qui permettent de faire arriver le sang à l'intérieur de la partie contractile, et puis les deux valves qui permettent d'éjecter le sang vers le poumon et vers les différents organes.
Donc, il y a un moteur à l'intérieur.
Absolument.
Il fait tourner tout ça, donc il faut, je le disais, de l'énergie.
Oui.
Et alors, comment cet individu fait-il pour faire fonctionner tout ça ?
Alors,
il n'est pas branché à une prise de courant ?
Alors, cette énergie est donnée par des batteries portables. Ces batteries portables lui permettent d'avoir une autonomie à peu près de 5-6 heures. Elles font 3 kilos. Et avec ces 3 kilos, le patient peut se déplacer. Il a une petite sacoche. Et si vous voulez, c'est comme on voit à peine que ce patient...
Et donc, il a ses batteries où ça ? Au niveau du...
Non, dans une sacoche.
Dans une sacoche, d'accord.
Qui est portée.
Ouais.
Donc, c'est comme quelqu'un qui se promène dans la rue avec une sacoche. Et vraiment, quand on voit le patient marcher de dos, vous ne pensez pas que c'est un patient.
D'accord.
Il marche comme vous et moi.
Mais alors c'est incroyable parce que le cœur évidemment réagit à beaucoup de choses, à l'effort physique, à, par exemple à l'émotion. Hein. Je ne sais pas moi, parfois on peut avoir peur, etc. Donc on sent son cœur battre et s'accélérer. Comment cet appareil va ressentir toutes ces émotions qu'on a pour accélérer justement le pouls ? Est-ce que justement il le fait ou est-ce qu'il est toujours stable ?
Alors effectivement, c'est la deuxième grande caractéristique de ce cœur. On a parlé des matériaux hémocompatibles. Oui. La deuxième grande caractéristique, c'est que ce cœur réagit aux besoins du patient automatiquement. Alors comment fait-il cela ? Il possède à l'intérieur des senseurs, des capteurs.
Des capteurs ?
Donc un certain nombre de capteurs, des capteurs de pression, des inclinomètres, vous savez, les mêmes capteurs que ce qu'il y a dans la console Wii, par exemple, exactement les mêmes.
C'est vrai, il y a les mêmes capteurs que dans la console Wii dans le cœur.
Oui, absolument, c'est des inclinomètres qui permettent de connaître la position du patient. On a des capteurs ultrasons également qui permettent de connaître la position de la membrane, donc du muscle cardiaque lors de sa contraction et donc de la piloter. Et en fonction de tous ces capteurs, on peut changer donc la fréquence cardiaque.
D'accord.
Et okay. Le débit cardiaque.
Mais concernant l'émotion, ou par exemple, ça marche aussi ?
Alors, l'émotion, c'est un peu plus compliqué, mais on tire profit du corps humain qui est vraiment très bien fait. C'est-à-dire que lorsque vous avez une émotion, non seulement vous avez un lien direct avec le cœur, qui accélère, mais vous avez également ce lien avec les différents muscles de votre corps. Donc vous avez une contraction musculaire qui va donner un retour sanguin qui va être supérieur. Et donc nous, on va détecter avec nos capteurs de pression ce retour sanguin.
Et vous allez accélérer le
cœur. Et on va accélérer.
Donc, mais là, typiquement, donc, cet individu qui a dit qu'il faisait du vélo, donc j'imagine que quand il fait du vélo, son rythme cardiaque doit s'accélérer. Et là, le cœur, ce cœur donc artificiel, augmente la pression sanguine, enfin en tout cas la cadence, c'est ça ?
Alors, automatiquement. En fait, normalement, ce cœur, effectivement, se régule en fonction des besoins
Incroyable.
Du patient.
On a vu que l'autonomie était de 5-6 heures. En revanche, il a intérêt à se rebrancher. Parce que là, comment ça se passe ? J'imagine qu'il y a des alarmes, des choses comme ça.
Oui, alors il a un contrôleur qui lui permet d'avoir une vision permanente sur le reste d'alimentation qu'il a dans ses batteries.
Oui.
Et bien sûr, une fois qu'il arrive à 20% de ses batteries, il a une alarme qui lui dit « changez vos batteries ». Donc il va prendre des batteries qui sont déjà chargées.
Il a des batteries supplémentaires de secours en quelque
sorte.
Oui,
parce que si vous voulez, tout a été conçu de manière sécuritaire. Ça, c'est un autre aspect, bien sûr, sur un dispositif comme ça. On a une redondance entre les deux batteries qui sont portées déjà. Et bien entendu, on recommande au patient d'emmener avec lui un certain nombre de batteries supplémentaires pour changer au cas où.
Et quand il dort, comment ça se passe ?
Alors là, il se branche directement sur le secteur à travers son pack batterie. Ce qui veut dire que si malheureusement il y avait une coupure secteur...
Et comme il a des batteries qui sont là...
Voilà, c'est les batteries qui reprennent le relais.
Ça doit être quand même un stress qu'il faut peut-être gérer au début, mais le fait de se dire, il faut toujours que j'ai une source d'énergie, autrement, mon cœur s'arrête de battre, quoi.
C'est un stress si vous avez à changer souvent les batteries. C'est pourquoi on a vraiment travaillé énormément sur une énergie massique, donc très importante. Donc d'avoir 6 heures dans 3 kilos, c'est quelque chose qui est une belle performance. Donc avec 6 heures, on peut commencer à vivre, si vous voulez, sans penser, sans arrêt à ses batteries.
Et on n'en est qu'au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut imaginer que dans quelques années, avec les technologies de batteries qu'on évoquait tout à l'heure d'ailleurs, ces batteries en aluminium qui seraient encore plus légères, qui pourraient être pliables, etc., on n'est qu'au début de l'histoire finalement.
Bien sûr, ça, on est en train de parler d'un système qui est porté à l'extérieur, qui n'a pas les contraintes de l'implantable.
Peut-être que demain, on pourrait imaginer avoir une batterie qui pourrait durer la vie entière du patient, qui serait dans le cœur, en fait.
Alors, on travaille dans le cœur, oui, mais il faudrait que les fiabilités de batterie soient au bon
top,
niveau,
au
top, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Mais par contre, on travaille sur des piles à combustible qui permettraient justement de donner au patient dans le même volume, donc qui serait remplaçable, je dirais, une autonomie de 12 heures.
Ça serait quand même plus confortable.
Ça serait beaucoup plus confortable puisque le patient n'aurait plus du tout à penser à ses batteries. Il se branche sur ses batteries, il prend ses batteries le matin et il peut s'en aller pour toute la journée.
Alors c'est un objet connecté, ce cœur-là. Comment vous interagissez avec lui ? J'imagine que de temps en temps, évidemment, même très, très régulièrement, vous consultez ce patient. Est-ce que vous faites des mises à jour de ce cœur-là ? Est-ce que vous arrivez, comme un petit ordinateur, j'imagine qu'il y a un programme à l'intérieur, vous pouvez interagir en temps réel avec ça, sans ouvrir le patient ?
Bien entendu. C'est, si vous voulez, la conception même du produit. On est sur un produit qui n'est pas accessible. Rappelez-vous qu'on vient de l'aéronautique et du spatial, donc des problématiques qui sont tout à fait identiques. Quand on a un satellite, on ne peut pas interagir avec ce satellite. Donc on a mis en œuvre des dispositifs qui sont à peu près identiques. Ça veut dire qu'on a non seulement une façon d'interagir et de changer le logiciel de la prothèse, tout en laissant fonctionner la prothèse, parce qu'il est hors de question d'arrêter la prothèse.
Mais comment vous faites ?
Eh bien, on a simplement un lien. Donc, on a un lien physique aujourd'hui, qui est un câble.
Donc, c'est un câble qui est connecté,
qui est connecté réellement au cœur et qui permet de télécharger des nouvelles versions de logiciels.
Met à jour le cœur comme on met à jour un ordinateur.
Bien sûr, parce que, si vous voulez, ce qu'on a à l'intérieur, un microprocesseur. Ce microprocesseur a un software. Ouais. Ce software, aujourd'hui, est adapté à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à la physiologie. Mmh. Mais peut-être que on aura des patients qui nous diront « Mais dans tel cas, je me suis trouvé essoufflé. » Alors, nous regarderons comment faire en sorte que le cœur s'adapte encore mieux à la physiologie qu'il ne s'adapte aujourd'hui. Donc, bien entendu, il y aura plusieurs versions. Et alors ça, c'est, je dirais, pour charger le logiciel. On a un lien dans l'autre sens qui nous permet de télémesurer, donc de voir toutes les données de ce cœur et de suivre, si vous voulez, l'état du patient d'un point de vue technique.
Mais là, c'est toujours avec un câble. Il n'y a pas de Bluetooth. Enfin, vous savez qu'aujourd'hui, les objets connectés fonctionnent beaucoup sans fil. Hein.
Oui,
alors,
bien
peut-être pas le Wi-Fi dans le cœur, ce cœur connecté, mais on aurait pu imaginer peut-être une connexion Bluetooth. Est-ce que c'est complètement surréaliste?
Non, ce n'est pas du tout surréaliste. On travaille également sur des sujets de cette, dans cette voie-là, qui serait également par un apport d'énergie à travers, donc par induction, donc au travers de la peau, sans avoir...
Ce qu'on fait plus ou moins avec les pacemakers aujourd'hui.
Exactement avec les pacemakers, tout à fait. Donc des technologies identiques, mais pour des niveaux de puissance qui sont différents quand même, parce que le pacemaker, c'est pas du tout les mêmes niveaux de puissance qu'un cœur artificiel. Là, on pompe 9 litres par minute, hein, il faut se souvenir de ça.
C'est énorme, il faut une puissance incroyable. Hein.
Bien sûr.
900 grammes ce cœur,
oui.
150 000 euros,
oui.
Parce qu'évidemment, on est toujours dans du prototypage aujourd'hui, hein, c'est ça.
Ce sera le début de série qui sera à ce prix-là, et effectivement...
Est-ce qu'on peut imaginer, je crois d'ailleurs que l'un de vos des dirigeants de cette société imagine que dans 30-40 ans, peut-être même avant, on pourrait imaginer ces cœurs sur des étagères et les avoir
absolument
en stock pour pouvoir les installer sur des patients qui en ont besoin.
Même, je dirais, ça sera avant ça. Ça, c'est pratiquement accessible et c'est ce qui va changer complètement la pratique médicale. Aujourd'hui, la transplantation, le drame de la transplantation, c'est l'attente du patient. Le jour où un patient ira voir son cardiologue, dira ça va plus bien, je suis essoufflé, et que le cardiologue dira si vous voulez prendre rendez-vous la semaine prochaine, on peut vous implanter un cœur artificiel. Ce jour-là, la pratique médicale.
En combien de temps, à votre avis ?
Peut-être dans moins de 10 ans.
Dans moins de 10 ans ?
Oui, je pense.
Incroyable. Alors, ce cœur artificiel, bon, c'est un miracle technologique. Enfin, même si c'est pas un miracle, hein, c'est surtout une prouesse technologique. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer demain comme autre organe artificiel, connecté, qui pourrait bouleverser la médecine?
Je pense que vraiment le cœur artificiel, c'est le premier organe et qui est peut-être, bien qu'il soit complexe, le plus simple, parce que c'est une fonction mécanique.
Oui, c'est un moteur
pompe,
finalement.
C'est une pompe.
Quand on a trouvé le système, après, voilà.
Ouais. Mais on peut imaginer dans le futur que des pancréas artificiels seront créés, puisque le diabète est un drame, aussi une maladie très importante. On peut imaginer également des poumons artificiels. Il y a déjà des études, des choses qui sont faites dans les deux domaines, mais je pense que ce sera les prochains organes.
Donc finalement, cet homme bionique qui fait partie encore de la science-fiction aujourd'hui, demain, ce sera une réalité.
Absolument. Demain, vous savez également que le coût des hospitalisations est un coût énorme dans la santé, globalement. Et bien sûr qu'on aura sur toutes ces prothèses-là, sur tous ces systèmes, des télédiagnostics. Et le médecin verra de l'hôpital comment se porte son patient avec son cœur artificiel, son pancréas artificiel, par exemple, et pourra lui dire « Non, ce n'est pas la peine que vous reveniez pour votre visite. Tout va bien, on vous verra dans 2 mois. »
Incroyable, incroyable. Merci beaucoup, Patrick Colombier, pour toutes ces précisions. Bravo pour cette prouesse technologique. Je sais que c'est une grande équipe. Ça fait des années. Ça fait quoi ?
Plus de 20 ans.
Plus de 20 ans que vous travaillez sur ce cœur artificiel et vous êtes en passe de réussir votre pari. Bravo, même si je sais qu'il y a des paris financiers aussi à relever maintenant.
Hein,
parce que c'est vrai qu'en France, on a les meilleurs médecins du monde. Mais après, pour tout le reste, pour tout ce qui est industrialisation d'un produit, son financement, etc., c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, c'est un vrai enjeu. Et on travaille beaucoup pour trouver les financements nécessaires.
Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directeur général adjoint donc de la société Carmat, donc pour ce cœur artificiel. Merci.
Merci à vous.
De quoi je me mêle ? La suite dans un instant. Alors ce sera beaucoup plus léger avec lui qui a un cœur en pleine forme. Hein. Vous connaissez, c'est Pépé Garcia. Il me rejoint dans un instant pour ses coups de cœur audio-vidéo. A tout de suite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv. François Sorel.
Et voilà, et à bord de se dire au revoir, et pour terminer le De quoi je me mêle, ce De quoi je me mêle de ce 10 avril 2015, il est à mes côtés, il est superbe. Lui, c'est Pépé Garcia.
Bonjour François, vous êtes bronzé. Vous dites, pour terminer, moi je suis la cherry on the cake, quoi.
Mais la cerise sur le gâteau, c'est important.
Mais c'est très important, cherry on the cake. Bonjour tout le monde, bonjour les followers, bonjour la galaxie, la Terre, E.T. Vous savez qu'on avait découvert, je sais pas, sur une galaxie, pareil qu'on a une trace de vie extraterrestre. J'ai vu ça ce matin, je me suis dit, il serait temps qu'on nous dise la vérité.
Peut-être qu'ils nous ressentent, peut-être pas d'ailleurs.
Enfin, s'ils sont intelligents, ils ne nous contacteront pas.
Voilà, c'est ça.
On va dire comme ça.
De quoi je me mêle donc en audio sur rmc.fr et la version vidéo donc sur 01net TV. N'hésitez pas à nous rejoindre et merci pour votre fidélité. Pépé, avant de commencer, parler de normes HDMI 2.0, avant de parler de son, avant de parler d'un film qui vous a fait pleurer, là vous allez moins rigoler.
Ah, moi je chiale tout le temps de toute façon. Quand je vois, je chiale. Même si je suis un cœur d'artichaut, François. Je suis un cœur d'artichaut.
On va parler Netflix. Et de la nouvelle série, on voit que Netflix, ça rigole pas, ils investissent des milliards de dollars dans des programmes inédits dont ils conservent les droits, ils sont malins, ils ont bien compris. House of Cards, ils ont fait l'erreur une fois, mais maintenant c'est terminé. Et leur nouvelle série, c'est Daredevil, qui a été présentée en avant-première hier, et vous avez vu une partie des deux premiers épisodes.
J'ai vu les deux. Alors, Netflix a dit, bon, on va peut-être montrer aux journalistes. Alors, on avait des tas d'interdictions de tout, pas le droit de filmer, presque d'en parler. Donc là, on est le vendredi 10, et c'était cette nuit. Donc, alors, Daredevil, tout le monde qui connaît l'histoire de ce Marvel, avec ce héros qui, enfant, est devenu aveugle. Moi, j'étais un petit peu sceptique. Bon, j'avais plus ou moins aimé le film avec Ben Affleck, parce que bon, ça a quand même été beaucoup critiqué, mais enfin, c'est pas le pire film du monde non plus. Et le truc, c'est que les deux épisodes qu'ils ont montrés hier sont très différents. Contrairement à des séries comme Game of Thrones, où dès le numéro 1, l'épisode pilote, on a l'impression que c'est la catastrophe nucléaire sur 12 générations et que tout le monde va crever. Là, le volet 1, François, ça commence tout doucement. Ils positionnent les voix des acteurs.
C'est une série qui prend son temps.
Mais ils ont prévenu. Netflix a dit, le premier épisode, c'est une mise en jambe. On découvre les personnages, on découvre les physiques, on entend les voix, on voit comment ça se place, on situe. Donc, autant vous dire, le premier épisode, il faut le passer. Je ne le dis pas ça méchamment, vous voyez ce que je veux dire? Il faut le passer. Les 5 dernières minutes, ça s'accélère parce que quand même, ils se disent il faut que les gens voient le deuxième, sinon c'est la cata vu le fric qu'on a foutu.
Il faut pas qu'ils s'endorment.
Le fric qu'on a foutu dedans, n'a
pas
envie. Il
y en a qui ronflaient ou pas pendant la.
Écoutez, j'ai eu un moment d'absence, je vous l'avoue franchement. J'avais un vigile qui m'a poussé t'as de la chance d'être là, alors réveille-toi et tout. Non, mais voilà, l'horreur quoi.
Et alors le deuxième?
Le deuxième, ça décolle. Alors ça le deuxième, on sent que le côté un peu mièvre, enfin gentil du premier s'envole. On se rend compte de qui est vraiment Daredevil. Il y a beaucoup de flashbacks bien foutus parce que tout le monde ne connaît pas toute l'histoire de ces personnages de Marvel. Ils font beaucoup de flashbacks bien faits pour expliquer pourquoi est-ce qu'il est comme ça maintenant. Il y a de la baston, il y a des histoires qui se mettent en
place. Il y a des moyens, on sent que c'est une grosse série avec des moyens ou pas ?
Justement, je pense que c'est pas sur ces deux épisodes qu'on sent qu'il y a vraiment beaucoup de moyens. Par contre, les décors sont très chiadés, mais il n'y a pas des trucs avec des super effets spéciaux. Non, c'est assez roots, avec des bagarres qui sont très roots.
Belles photos, belles images.
C'est très belles photos. Tout est sombre. L'histoire est très sombre. Daredevil est un personnage sombre dans les Marvel. Donc toute la photo est sombre.
4K, j'imagine. Si on a un abonnement Netflix.
C'était tourné en 4K. Là, je dis quand même à Netflix hier qu'il serait peut-être bon de régler les écrans LCD chez Netflix parce que c'était absolument abominable. On n'y voyait rien. Écoutez, les enfants, j'étais là. Moi, je me disais, mais où il est Daredevil? Mais où qu'il est? Moi, j'ai remboursé mon invitation. Et c'était mal réglé. Bon, bref, les gens, on s'en foutait un peu. Mais moi, avec l'œil, j'étais avec un pote à côté. Bonjour, la post-production et tout. Bon, bref, on était méchants.
Et c'est disponible à partir d'aujourd'hui?
Oui. Alors, il le lance aujourd'hui. Je crois que c'est l'épisode 1. Tout le monde l'attend. Donc, si vous nous regardez.
Alors, je sais pas comment ça se passe, Netflix, parce que ils balancent toute la saison d'un coup. Et après, vous la regardez comme vous voulez. Si vous voulez, vous la cramez en un week-end.
Hier, ils nous ont dit les deux premiers là.
Et après, petit à petit, ils vont alimenter.
Nous, on en a 13
Parce que Marco Polo, par exemple, ils ont balancé la série d'un coup d'un seul.
À vérifier, alors.
Il y avait tous les épisodes d'un coup.
À vérifier, parce que c'est pas l'info que j'ai eu hier. Mais je peux très bien avoir bu hier soir un peu trop de cristalline.
Bien sûr. En plus, vous buvez que ça.
Oui, je suis la cristalline, c'est merveilleux.
Allez, on enchaîne avec justement un câble qui vous permet d'avoir de belles images sur votre télé. C'est le câble HDMI, qui a remplacé la Péritel, bien sûr. Et le câble HDMI, il y a une nouvelle version qui vient de sortir.
Regardez,
il se transforme.
Je suis l'art. Bon, comme c'était prévu, François et tout le monde, la prise HDMI évolue.
C'est logique.
Ce qui est logique. Le seul truc, c'est que là, elle évoluait d'un coup, puisqu'une norme a été arrêtée qui s'appelle la HDMI 2.0A. Alors, A.
Alors, elle évolue, mais pas au niveau de physique. Hein. C'est-à-dire qu'elle évolue au niveau logiciel.
Elle évolue dans la capacité, par exemple, à quoi elle est attachée. C'est-à-dire, D'accord. 2A, c'est une norme à quoi est attachée les nouveaux téléviseurs. Donc, c'est une norme générale qui correspond au tournage des films, à la diffusion et tout, et qui permet d'avoir le fameux HDR, High Dynamic Range. Pour expliquer, en Ultra HD, ça permet d'avoir des blancs plus blancs, des noirs plus noirs. C'est le contraste extrême. C'est vraiment un truc qui est très dynamique. On double tout ce qu'il y avait avant.
Donc il faut plus de débit.
Il faut surtout avoir la norme dedans, la norme HDR. Alors ce qui se passe, c'est que cette nouvelle norme existe donc réellement, mais que tous les téléviseurs que vous avez jusqu'à présent ne sont pas compatibles. Aïe. Et qu'il n'y a que ceux qui sortiront après l'annonce qui pourront l'avoir.
D'accord, donc ça veut dire que...
Et qu'il n'y a pas d'upgrade possible à mon avis, parce que ça a été décrié partout. On ne peut pas upgrader le téléviseur qu'on aura acheté en Ultra HD maintenant avec la norme, entre guillemets, HDMI 2.0A. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau.
Il y a du nouveau hardware à l'intérieur.
Il y a un nouveau hardware.
C'est pas du soft qu'on peut mettre à jour.
A priori non, c'est à vérifier, mais d'après ce que j'ai vu moi sur le forum, c'est que donc cette norme.
Donc je me suis cramé
personne ne se crame.
Attendez, je me suis acheté ma télé OLED 65 pouces LG qui me fait rêver. Enfin, c'est je ne l'ai pas acheté parce que franchement, je n'ai pas les moyens.
Je suis sans voix.
Je suis très content de cette télé.
Ah, mais elle est magnifique.
Et je ne pourrais pas mettre à jour ma prise HDMI.
A priori, non. Il faut savoir que la prise en elle-même ne change pas. Elle peut transférer le signal, donc super boosté. La prise en elle-même physiquement ne change pas. Mais a priori, on ne peut pas upgrader ce qui est déjà dans les téléviseurs actuels pour que ça soit possible, parce que le téléviseur lui-même ne peut pas encaisser cette grande dynamique. Il faut qu'il y ait quelque chose dans le circuit électronique téléviseur qui permette de la digérer.
D'accord.
Donc c'est à confirmer. Ne paniquez pas. Il faut aussi voir un truc.
On ne panique pas. Il y a
aussi un truc qu'il faut voir, François. C'est que est-ce que le public d'abord est au courant ou sera au courant de ce qu'est le HDR? Est-ce que tout le monde verra vraiment la différence? Parce que nous on a des trucs comparatifs, on voyait un téléviseur qu'il avait, un téléviseur qu'il n'avait pas. C'est vrai que d'un côté c'est très...
Mais c'est pas ce qui va
ça va pas non plus changer la face de la lune.
Mais
c'est pour dire que encore une fois la HDMI comme on le prévoyait a encore évolué, ça s'est arrêté sur quelque chose et qu'encore une fois on nous dit écoutez la suite, parce que là c'est confirmé, le Blu-ray Ultra HD aura donc le HDR, les diffusions télé, même Netflix et autres auront du HDR à l'intérieur. D'accord. Donc c'est une norme générale.
Alors, dites-nous, vous êtes peut-être constructeur, vous regardez de quoi je me mail. Si vous pouvez mettre à jour, si on pourra mettre à jour sur certains téléviseurs cette norme HDMI 2.0A, dites-le nous. Voilà, on verra bien.
Ah oui, et bonne journée surtout, messieurs, dames.
Bonne journée, bon week-end. Allez, on va parler de son maintenant, de son sans fil, avec Sony qui est en train de déployer sa nouvelle norme de transmission sans fil.
Alors, c'est l'été. Alors, l'été, qu'est-ce que fait Sony? Il balance sa petite enceinte nomade. En plus, ça n'est pas trop cher. Il y a des modèles Caris, c'est pour ça que je voulais en parler ici dans De quoi je me mêle, qui sont les SRS X33 et X53 pour 160 et 200 euros. Et les trucs de bien, c'est que ces deux petites enceintes comme ça, à l'air de rien. C'est pas les bonnes, celles-là.
Ah, c'est pas les bonnes.
Celle-là, c'est pour les gens qui auront la vidéo, ça, c'est la bonne. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont compatibles avec.
Florian ne mangera pas à midi.
Voilà, le Bluetooth, le NFC et le LDAC. Alors on explique ce que c'est que le LDAC. Le LDAC, c'est du Bluetooth évolué qui va sur 990 kilobits secondes. Et qui permet d'avoir une sorte de son haute résolution, une sorte de 24 bits, et d'avoir une sorte
en tout cas meilleur que le Bluetooth.
Meilleur que le Bluetooth normal, donc, puisqu'on passe en 990. Et ces petites enceintes qui, donc, valent pas cher, permettent d'avoir ce genre de son. Je trouve ça intéressant d'en parler.
Mais est-ce que ça se sent? Est-ce qu'on entend la différence?
Au milieu de la nature, avec, pas de
un
bruit.
Mais
le truc, c'est de dire qu'on peut essayer d'avoir un peu mieux. C'est toujours ça, quand on l'a chez soi, si on peut avoir un son un petit peu meilleur. Vous savez, le son, c'est subjectif. On a ouvert beaucoup de débats ici sur 01 Net.
Oui. Non, mais c'est vrai que sur une petite enceinte, est-ce que c'est pas que du marketing finalement? Alors qu'on sait que c'est peut-être un peu compliqué de détecter un son high-res sur une enceinte qui fait 30
cm. Je suis d'accord avec vous. Je pense que pour les casques, ça va être beaucoup plus probant quand il y aura vraiment Bluetooth avec
les casques. On les a sur les oreilles.
C'est un univers clos. On va se prendre en plein dans les tympans tout de suite. Donc voilà. Donc ça existe, ça coûte pas trop cher. Merci, messieurs, dames.
Voilà. Casque voyage. Réduction de bruit, toujours pratique quand on prend l'avion ou même le train, ça marche mieux sur les avions, mais ça peut être aussi efficace sur d'autres moyens de transport. Alors vous savez qu'il y a pléthore de modèles.
Dont le Zig 2.0 qui fait un carton.
Le Zig 2.0, il y a Bose aussi qui sort d'excellents produits. Et là c'est PSB.
PSB c'est une grande marque en fin de compte de haut-parleurs, d'enceintes et de casques.
C'est peut-être moins connu que les grands ténors.
Mais quand vous allez en Grande-Bretagne ou autre, ou en Allemagne, vous trouvez beaucoup de produits PSB. Et là ils sortent un casque qui est annoncé, moi je ne l'ai pas écouté vraiment encore, hein, qui est annoncé comme un des meilleurs, il coûte un peu cher, hein, il coûte 399 €, qui est un des meilleurs au niveau de la réduction du bruit actif, il s'appelle le M4U2, qui a des très belles caractéristiques audio, qui travaille sur 32 ohms, donc ça va à peu près avec la plupart des produits, enfin avec les smartphones, il faut un peu faire attention. Et il a des très belles caractéristiques, donc avec vraiment une sensibilité de 102 dB, bon, c'est un truc qui booste beaucoup, qui peut être une solution alternative, parce que le but quand même de cette émission aussi, c'est de dire aux gens, bon, il y a des produits qui existent, mais nous on essaie de vous proposer aussi des petits trucs qu'on vous pouvez écouter en magasin, qui va peut-être vous séduire en sortant des sentiers battus. Et là, c'est un truc que j'ai trouvé intéressant, qui sera testé dans Power, donc le M4U2 de PSB Speakers.
Power, tous les lundis soirs sur Zeronet TV à 18h, le show high-tech de Pépé.
Oui. François.
Allez, on enchaîne avec Onkyo. Là, c'est une marque que vous connaissez sans doute si vous êtes un audiophile, hein, une marque japonaise qui fait vraiment des produits de très bonne qualité avec toujours ce prisme de la qualité sonore. Avec un DAC, c'est ça ?
Oui, c'est un DAC un peu particulier.
Rappelons ce que c'est un DAC.
Un DAC, c'est un convertisseur audio qui permet de convertir le son numérique en son analogique. D'accord. Tout simplement. Il y en a de diverses qualités. On sait que dans les smartphones, c'est... Tchoum ! Oui, et donc on fait... Parce que c'est pas toujours terrible. Donc on sort des DAC externes pour le qui peut être connecté à un PC ou un Mac. Et donc là, Onkyo sort son produit qui s'appelle le AH300, qui est un produit qui coûte cher, hein, 599 €, mais qui est intéressant puisque à l'intérieur, on peut caler une petite... carte micro SD sur laquelle on peut mettre de la musique et le DAC devient un baladeur.
D'accord.
Donc
ah oui.
Le truc est intéressant.
Donc il y a un ampli à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez le DAC qui en plus peut être connecté à votre smartphone avec bien sûr l'USB on the go ou bien Lightning. Et quand vous voulez, vous chargez de la musique et quand vous voulez, pas, vous n'avez plus besoin d'utiliser le smartphone. Votre DAC est un baladeur.
C'est
avec
génial.
En plus un écran, on le voit pour les gens qui ont la vidéo.
Donc il y a une batterie à l'intérieur.
Il y a une batterie qui dure 9 heures. Il y a un écran qui permet de choisir les morceaux et tout. Donc c'est un baladeur DAC, plutôt un DAC. DAC baladeur. Donc je trouve que c'est original, il sort au mois de mai, on le testera. C'est un produit qui est un peu révolutionnaire.
Et c'est Onkyo, donc on peut imaginer que la qualité
avec
va être au rendez-vous.
Port micro USB, oui c'est ça, c'est une grosse marque de Hi-Fi et on peut imaginer en effet que c'est sublime.
Voilà, après il faut le casque qui va bien parce que là il faut derrière
avoir
un truc qui assure. Hein.
Il faut pas dober le tympan quand même.
Oh bah non.
Non, bah non, écoutez François.
Tiens, puisqu'on parle de qualité de son, vous savez que HP pendant de nombreuses années avait comme partenariat Sonor Beats le problème.
Je sais pas ce que j'ai, mais c'est la pollution. J'ai un chat dans la gorge, c'est affreux, j'arrive pas. Redites la marque.
HP Beats. Ouais, c'est ça. Et donc Beats, vous savez, a été racheté par Apple. Donc forcément, HP s'est retrouvé un petit peu à la croisée des chemins. Et on peut imaginer qu'Apple a voulu mettre un terme à ce partenariat avec HP, puisque HP est un concurrent d'Apple. HP c'est 18, parce qu'au niveau marketing, c'était pas quand même pas mal, ça rapportait pas mal d'argent.
HTC l'a fait aussi avec Beats. Hein,
HTC.
C'est normal, c'est des marques connues, il n'y a pas de raison.
Et donc HP s'apprête à dévoiler, a d'ailleurs déjà dévoilé un partenariat avec une autre marque liée au son.
Et cette fois-ci... C'est Beoplay, c'est Bang & Olufsen. Alors ils ont lancé ça sur les tablettes, les smartphones et ainsi que certains PC haut de gamme. Donc quand on a souvent le Tech Lansing ou autre sur les modèles, maintenant il y aura Beo qui va équiper une grande partie de la gamme HP. Donc je pense que c'est un gros deal parce que quand même HP, il y a du monde au balcon. Donc il y a un gage de qualité qui est derrière puisque bon quand même quelque part ils bossent bien ces gens-là. Voilà. C'était un truc, une petite news pour vous.
On va voir ce que ça donne. Les premiers PC arrivent quand ?
Aucune idée, je ne sais pas.
Je pense à la rentrée.
Ah mais moi je pense que c'est dans très très peu de temps là. Hein. Oui. Je pense que ça va arriver très très vite, François.
Allez, on enchaîne. On enchaîne avec les films maintenant et la petite sélection de Pépé Garcia. On va commencer par une... Alors plus qu'une rumeur, maintenant ça y est, c'est complètement acté. Pour tous les fans de X-Files, moi j'étais fan de X-Files, même si je ne comprenais pas toujours tout au scénario de... Comment ça s'appelle ? C'est Chris Carter, hein, c'est ça ?
C'est Chris Carter qui avait fait ça avec cette musique au début.
De temps en temps, on a l'impression qu'il fumait un petit peu.
Mais non,
quand même.
Il fume tous, ça s'en fout.
Ah voilà, il s'en fout.
Mais le début, rien que la musique, ça me mettait en transe.
Ouais.
Il y avait un côté, on a l'impression qu'on allait se faire fouiller par un extraterrestre avec sa lampe torche, un truc. Je ne sais pas ce qui se passait. Je me suis dit, non, ne prenez pas comme ça, mais je veux dire, il allait nous chercher. Quoi. On voyait presque que l'extraterrestre. Qui était là, qui arrivait, le petit homme gris.
Il y avait d'ailleurs des épisodes très effrayants.
Ah, je suis flippant, le mec qui devenait tout fin, qui faisait les conduits et tout.
Oui.
Mais moi j'ai pleuré de voir ce truc-là, mais c'est pas possible avec les mains qui s'allongeaient et tout. Mais c'était dingue cette série.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Mulder et Scully ont décidé de repartir pour un tour.
Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont d'un commun accord, deux acteurs. Je suppose que d'ailleurs, il y a dû avoir un petit chèque de 2 euros.
Non, je pense pas.
Non, je pense qu'ils
font ça bénévolement.
C'est gratos. Ils ont décidé, tiens, on va en faire en plus, et on commence le tournage cet été. C'est-à-dire que la diffusion n'est pas cet été. Hein. Le tournage est cet été de nouveaux épisodes de X-Files avec donc, le casting originel. Il y aurait 6 épisodes. Moi, j'ai eu le chiffre de 6 relancés. Donc, c'est la Fox, a priori, qui les produit. Donc, c'est confirmé. Ce n'est pas une rumeur. Ils le refont. Donc, je trouve ça plutôt jouissif pour tous les fans. À savoir maintenant si, entre-temps, ils ne sont pas fait un peu dépasser par des trucs comme Fringe ou autres qui sont allés très très loin. Des séries qui sont quand même allées très très loin dans l'univers créé parce qu'ils ont quand même été novateurs.
Exactement.
Dans cet univers créé par les X-Files, est-ce qu'ils sont capables de tenir le choc face au nombre de séries actuellement qui ont beaucoup de moyens? Comme vous le savez, François, tout le monde, et voilà. C'est important de le dire.
Et David Duchovny, qui est un comédien qu'on a découvert dans X-Files, mais qui est un super comédien que moi j'ai découvert dans Californication.
Mais c'est la série fabuleuse.
Et franchement,
déjà.
Autant dans X-Files, il était un petit peu mièvre et parfois un peu en retrait. Enfin, moi je le trouvais pas très charismatique. Autant dans Californication. Enfin, moi, j'ai redécouvert ce gars-là.
Ça lui va vachement bien.
Et ça lui va nickel. Ouais. Donc, franchement.
C'est un très bon acteur.
Ouais. Très bon acteur.
Je suis assez
très
curieux de voir le
voilà.
retour.
Est-ce qu'il va évoluer?
Voilà.
Parce qu'ils ont 15 ans de plus.
Si le scénario est bon, il n'y en a que 6 à faire. On s'en fout qu'ils aient. Et les gens, de toute façon, seront au rendez-vous. Parce que
évidemment.
Quand même, ça a marqué, pas qu'une seule génération, deux. Les vieux comme nous et tout. D'accord. Allez, François.
Allez, on enchaîne. Et on va parler maintenant du film qui vous a fait pleurer. Pépé, ça sera pour terminer.
Ah ouais, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un film qui me fasse vraiment chialer. C'est La Famille Bélier. C'est vrai qu'on parle pas souvent de cinéma français. Si, on a fait Astérix la dernière fois. Et ce film m'a ému. Je m'y attendais pas. Je me suis dit, bon, le scénario. J'aime beaucoup les acteurs à la base, avec Karine Viard et autres. Et je me suis dit.
En plus, c'est tiré d'une histoire un peu difficile.
C'est difficile, je veux dire. C'est une famille de malentendants, enfin de non-entendants. Et il y a une des enfants qui est entendante. Et qui, en plus, rêve d'embrasser une carrière de chant. Vous voyez un peu la dichotomie complète entre une famille qui n'entend rien et la gamine qui veut chanter. Les parents ne peuvent pas l'entendre chanter, peuvent pas l'entendre s'exprimer. Et ça, en plus, c'est un milieu rural, ce qui est vachement bien parce que c'est une belle partie de la France. En plus, moi, en tant que Normand, quand on me dit rural, ça me parle vraiment. J'ai vécu toute ma vie près d'une ferme et je me suis dit, j'ai retrouvé des trucs et c'est tellement bien fait. Il y a tellement le langage du corps, parce qu'il n'y a pas le langage de la voix, qu'on peut pas s'empêcher de trouver que c'est une réussite, que c'est bien fait, qu'on chiale.
Et c'est très émouvant.
C'est très émouvant. C'est un beau Blu-ray, un beau DVD avec des beaux bonus où les acteurs sont francs, parlent de leur challenge. C'était hyper difficile. Il fallait qu'ils apprennent le langage des signes. Ils ont dit eux-mêmes que c'était un challenge incroyable. Karine Viard a dit, moi, c'est le plus beau challenge de ma carrière. Et j'ai vraiment trouvé qu'il l'avait relevé. Il y a des scènes absolument... Vous l'avez vu peut-être ce film. J'ai trouvé que c'était une émotion étonnante. Alors, je le conseille.
Karine Viard qui embrasse une jolie carrière de chanteuse aussi.
Tout à fait.
Boostée. Par
il y a François Damien qui était excellent, qu'on avait découvert sur Canal. Et autres. C'était vraiment... Voilà, c'est un de mes coups de cœur et c'est beau.
Voilà,
c'est beau.
On quitte Pépé avec une larme à l'œil, les amis. Regardez, c'est beau ou pas? Oh là 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 là.
Je ne peux plus écouter.
Pépé, merci. On
Mais
se retrouve très vite.
C'est un bonheur. Merci,
voilà,
merci,
c'est un bonheur.
Merci à
c'est
tout
vrai
monde.
De retrouver
merci
Pépé régulièrement dans De quoi je me mêle. De quoi je me mêle est terminé. N'hésitez pas. Pépé75 pour suivre Pépé sur Twitter. Le mien, c'est F. Sorel. La page Facebook de quoi je me mêle pour partager votre passion des nouvelles techno. Portez-vous bien. Bon week-end à tous et à très vite.
De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net.tv.